Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence. Bonjour, alors je suis vraiment heureuse de vous partager ce podcast tout particulier aujourd'hui. Et pour vous mettre en contexte, je vais vous relater la rencontre la plus incroyable que j'ai faite depuis vraiment longtemps. C'est celle avec Frédéric Pignon, qui est un artiste équestre français qui était de passage à Québec. Et historiquement, certains le connaissent peut-être à travers Cavalia. Avec lui et son épouse, Magali Delgado, ils avaient les chevaux. Ils avaient entraîné, mais c'était aussi leurs propres chevaux. Dans les années 2000, qui ont fait les premiers spectacles de Cavalia. Et quand on travaille avec les chevaux, avec ce niveau de liberté au cheval, il n'y a aucune aide, il est sans selle, c'est juste une petite cordelette, mais beaucoup de choses se passent dans l'invisible, beaucoup de choses se passent dans la communication très subtile. Et donc, si on devait avoir un modèle de présence, ça pourrait être Frédéric Pignon, bien plus que n'importe quel prof de méditation. Parce que quand on travaille avec des chevaux, les chevaux, ils ne vont pas mentir. Donc, ce que nous enseigne Frédéric Pignon, les mots qu'il met pour nous expliquer des choses en lien avec les chevaux, je l'ai comme extrait pour pouvoir en faire des connaissances ou des éclairages sur des processus qui sont vraiment subtils, mais vraiment incroyables pour pouvoir parler du concept de la présence. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment réfléchi à la façon dont j'avais reçu ces enseignements-là, et je les ai comme un petit peu hiérarchisés en plusieurs enseignements, et je vais vous les partager aujourd'hui pour finalement, même si vous n'avez pas été à la clinique, comprendre que ça existe des personnes comme ça, puis peut-être s'inspirer de ces personnes comme ça pour pouvoir être capable de soi-même changer notre relation à l'autre. Mais vous allez voir, c'est d'abord surtout à soi-même. Ça part de soi. Bon, c'est peut-être une banalité de dire ça, mais ça part vraiment de soi. Alors, on plonge. Mes premières choses, avant tout de donner les enseignements, je veux juste vous raconter une petite anecdote sur le comment je me retrouvais dans cette clinique-là. Donc, c'était une clinique privée. Une clinique, c'est une formation pour les Français. Je sais que c'est pas le même mot en France. Donc, c'était une formation de 2 jours qui était privée. D'habitude, bon, ils donnent des formations à des très grands groupes. Là, c'était vraiment un petit groupe restreint. Et j'avais plusieurs amis dans l'écurie où se donner cette formation-là. Mais en même temps, je faisais pas partie de cette écurie. Donc, évidemment, j'avais pas ma place pour cette formation-là. Donc, j'ai quand même demandé. On m'a dit non. J'avais demandé même plusieurs fois. On m'a dit non plusieurs fois. Et au fond de moi, malgré tout, je savais que j'allais... je savais pas que j'allais y participer, mais j'avais confiance. Donc, j'avais pas une teneur de « ça va se passer comme ceci, ça va se passer comme ça », mais j'avais confiance et comme une espèce de paix intérieure. Et je sais que quand j'ai cette paix intérieure, ça fait en sorte que le plus beau arrive. Et le plus beau est arrivé sous la forme d'un courriel de Astrid, de mon cheval professeur. Vous irez écouter son podcast. D'ailleurs, elle parle aussi de son expérience avec Frédéric Pignon, mais plus côté cheval, qui me disait que finalement, ils avaient ouvert un tout petit peu plus grand et que j'étais autorisée à venir comme spectatrice pour pouvoir suivre la formation. Donc, je remercie beaucoup Valérie Dastou, du Chevalerie du Sommet, puis Valérie Laplume aussi, qui était en lien avec Frédéric Pignon pour l'organisation de tout ça. Et ça m'a permis finalement de vivre 2 jours qui m'ont totalement transformée. Le petit clin d'œil que je voulais faire, si je rebondis, c'est que dans la vie, il y a des rendez-vous. Et bon, je ne vous raconterai pas tous les détails, mais il y avait plus de rendez-vous à ce week-end-là, à ces 2 jours-là. Mais un peu comme pour mon cours à l'UQAM où je savais que j'allais y participer, un cours qui se donnait juste en présentiel, mais finalement j'ai réussi à y participer. Mais là, je savais qu'il y avait quelque chose de beau et cette rencontre-là était tellement majestueuse que finalement c'était plus une synchronicité qu'une rencontre. Je vais terminer là ma parenthèse et je continue. Je continue, je reprends, je commence. La première chose dont je voulais vous parler, c'est la présence qui est presque thérapeutique de Frédéric Pignon. Quand je dis thérapeutique, c'est-à-dire qu'il a une qualité de présence qui va faire en sorte que notre propre présence ou notre propre conscience est transformée est comme agrandi, décrispé par le simple fait de sa présence à lui, de sa conscience à lui. C'est sûrement ça que les chevaux ressentent. C'est finalement un espace très doux, une conscience très douce, très ouverte, sans, en toute transparence, sans arrière-pensée, je vais y revenir, sans agenda caché, vraiment quelque chose d'hyper transparent, d'hyper doux, d'hyper présent, d'hyper enveloppant, qui fait que quand on est à côté, on peut se déposer. Les chevaux d'ailleurs, même les plus furieux, tournaient autour de lui quelques minutes, puis après venaient se déposer en présence, en conscience, en paix, en sérénité, à côté de Frédéric. Nous, on n'est pas des chevaux, mais quand même, on est quand même des mammifères. On l'a senti cette présence. Et moi, personnellement, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a comme un peu décompacté ma présence. Ça m'a comme permis d'avoir, de ressentir que ma conscience prenait plus d'espace. Ma conscience s'agrandissait. Et en s'agrandissant, ben, forcément, ben, elle venait comme délivrer des petits espaces où il y avait comme des peut-être des émotions plus encapsulées, des émotions difficiles ou des choses qui étaient comme, tu sais, quand vous avez un tissu qui est froissé, parfois dans ce tissu il peut y avoir comme des petites graines ou autre, puis en le défroissant, mais il y a tout ça qui revirevolte et ça fait en sorte que ben, tu as défroissé ta conscience et tu as ce qui était prisonnier là-dedans, ben, c'est venu être. C'est parti, ça s'est comme envolé. Ben, moi, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Sa présence m'a, ben ça m'a chamboulé beaucoup, parce que c'est pas une expérience qu'on fait tous les jours. Moi, je la vis beaucoup quand je fais des retraites de méditation plus longues, mais là, c'était comme en 2 jours, presque instantané, mais avec aussi des échanges plus intellectuels au travers. Et donc, c'est comme si ça venait agrandir la conscience et ça m'avait amené dans un espace de conscience encore plus grand. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que quand je vis ça, je sens toujours qu'il y a une transformation. D'ailleurs, les amis que j'ai vus la semaine qui suivait, je leur posais la question, j'ai changé, hein? Je leur posais la question, j'ai changé, n'est-ce pas? Tu sens que j'ai changé. Bon, ils me disaient non. Mais moi, au fond de moi, je savais, je sais que j'ai changé grâce à cette rencontre-là. Et si j'extrapole ce que je dis là, c'est que on a tous le pouvoir, à notre niveau, de venir créer cet état de présence, ou en tout cas le choyer. Je pense que chez Frédéric Pignon, c'est naturel, c'est. Bon, je ne le connais pas personnellement, c'est peut-être 80% de son temps, mais nous, on peut la créer, cette présence-là, pour les personnes qu'on côtoie. Puis je trouve que c'est une grande motivation pour méditer, de finalement, ben déjà pour soi, d'être dans cette présence-là, c'est très délicieux, mais aussi l'offrir à l'autre, parce que c'est une façon vraiment simple de venir prendre soin grâce à quelque chose qui ne nous demande presque pas d'énergie. C'est d'être présent, et c'est quelque chose qui est aussi inimitable. Il n'y a pas un robot, un doudou, une pratique qui peut égaler ça. C'est vraiment quelque chose qu'on bâtit, qu'on construit, qu'on tricote à l'intérieur de soi, qui nous fait extrêmement de bien, oui, pour nous, mais qui est qu'on peut partager, qu'on peut offrir. Et on sait que hein, cette joie partagée, c'est double joie. Donc il y a vraiment quelque chose de beau de se préoccuper de sa propre présence. Et évidemment, comment on s'en préoccupe, c'est à travers, en tout cas je pense, le fait de choyer son intériorité, le fait de méditer. En tout cas, pour moi, ça, c'est sûrement le raccourci. Il y aura d'autres techniques, il y a sûrement d'autres techniques aussi. Deuxième chose qui m'a particulièrement, sur laquelle j'étais particulièrement sensible chez Frédéric, c'est sa douceur. On me dit que je suis une personne douce. Et c'est vrai que je pense que je la porte, cette douceur-là, de façon assez naturelle, peut-être un beau 70-80% du temps. Après, bon, j'ai aussi mon côté français, n'est-ce pas, hein, descendant de Napoléon, qui revient. Donc, je suis capable d'intensité, évidemment, mais cette douceur, on me la reconnaît. Mais j'ai été bluffée par le niveau supérieur de douceur, le next level de douceur que Frédéric avait avec le cheval. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en note de commentaire une photo sur mes réseaux sociaux. En tout cas, je vais trouver une façon de vous mettre ça pour que vous puissiez sentir sa douceur à travers une photo que la talentueuse Élise Genêt, donc une artiste peintre équestre, a prise. Elle était là avec nous en plus. Artiste internationale qui fait des photos incroyables, des tableaux incroyables. Bref, je vous mettrai le lien vers son art. C'est trop, trop beau. Et donc, elle a pris cette photo, puis Elle capte pas juste la photo, elle capte l'essence de l'échange et on sent cette douceur-là. Donc il a une extrême douceur et cette extrême douceur, elle vient comme teinter. Elle est comme en fait le résultat de choses qui se vivent plus en amont, dans l'inaction, dans l'invisible. Et c'est ça que je vais essayer peut-être de vous verbaliser, c'est-à-dire que son geste de douceur, sa présence dans sa main quand il s'approche du cheval, puis pour le caresser avec vraiment douceur, puis ensuite un cheval. Tu sais, on a l'image du cheval qu'on cravache ou autre, alors qu'un cheval, ça sent une mouche sur son poil. Donc c'est extrêmement sensible. Et lui, il les reconnaît, ces animaux sensibles, à des niveaux que on ne peut même pas imaginer, mais qui sont hyper inspirants, parce qu'après, ben, on regarde plus notre chat de la même manière, on regarde plus n'importe quel animal de la même manière, après avoir regardé Frédéric Pignon caresser un cheval. Et là, cette douceur-là, elle est très très en amont, parce qu'il y a une douceur dans le geste, mais il y a une douceur dans la parole, oui, mais une douceur dans la pensée. Et ça, c'est ce que Frédéric appelle être poli. Moi, c'est ce que j'appelle être transparent. C'est que il n'a pas des pensées qui viennent polluer qui il est et la relation au cheval. Donc, qui il est et qui est l'autre. C'est pas pollué par des préoccupations mentales, des pensées négatives, des questionnements, des interrogations, des anticipations du futur. Non. En fait, il est tout là. Et c'est sûr qu'avec ses pratiques à lui, il n'a pas de pensée ou juste des pensées qui sont en lien avec le cheval et la communication qu'il veut créer avec lui. Et donc, lui, il appelle ça être poli, c'est ne pas avoir des pensées négatives qui viennent, il dit vraiment négatives, mais qui peuvent venir comme polluer. Donc, il ne va pas juger. Et c'est ça, cette politesse. C'est la politesse au niveau du geste, la politesse au niveau des mots, mais la politesse au niveau des pensées, de ces pensées qui ne jugent pas. Et c'est vrai qu'on le sent. Il y a des personnes qui sont très affables de. Tu sais, quand on les côtoie, très très affable, mais tu sens qu'il y a comme un filtre où elles se forcent finalement, où il n'y a pas comme quelque chose de transparent de bout en bout, parce qu'on sent leurs pensées qui font comme écran et qui créent comme une résistance finalement, qu'on peut percevoir quand on est sensible et qui va faire en sorte que ben, finalement cette personne, elle n'est pas dans l'expression parfaite, elle n'est pas du tout dans l'expression parfaite de qui elle montre qui elle est. Elle est dans quelque chose qui vient comme teinter ça. Et ça, on perçoit, puis on ne le fait pas exprès, hein, vraiment, avoir des pensées, on ne le fait pas exprès, mais avec le temps, avec une essence comme celle de Frédéric Pignon, ben, ça nous montre que ça existe, que on peut être totalement transparent et finalement faire en sorte que notre présence, elle est entière, pleine, depuis la transparence des pensées, depuis un esprit pur, jusqu'à un geste qui est parfaitement clair. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très marquant. Et depuis cette expérience-là, depuis cette clinique-là, c'est clair que je fais très attention à ma qualité de présence avec les humains que je croise. Donc je médite beaucoup plus, en plus de manière informelle, pour pouvoir peut-être dissiper les crans, les taux de pensée qui peuvent venir obscurcir, tu sais, la fluidité et la transparence que je pourrais offrir à l'autre, hein, grâce à ça. Que j'ai adoré aussi, c'est en lien avec les pensées, la parole, mais ça vient comme une fois, comme je vous disais, en amont, plus dans l'intérieur, dans l'inaction, dans l'invisible. C'est le fait que lui, il a compris que on est trop tout le temps dans la demande. On est trop tout le temps en train de demander, d'exiger, de contraindre finalement, même si on n'utilise pas des mots qui contraignent, le seul fait de parfois demander ou de questionner un petit peu plus rudement, ça fait en sorte que ça crée une pression chez l'autre, chez le cheval. Alors que lui, ce qu'il nous propose, c'est de ne pas demander, mais de suggérer. C'est de proposer. Et de comme proposer, c'est comme si on laissait la porte ouverte à ce que l'autre puisse vraiment sentir qu'est-ce qu'il a besoin et pas sentir la pression de la demande. Parce que même si on n'impose pas, une demande peut être empreinte de tension, de pression, comme pour venir obtenir ce qu'on veut. Quand on suggère, ben, on est dans un espace, on reste dans un espace où on ne vient pas créer une empreinte chez l'autre, mais on vient comme ouvrir un possible, quitte à lui à le saisir ou pas ce possible-là. Je le vois en image, mais moi je vois beaucoup en image, et ce que je vois, c'est que quand on demande, c'est comme si la demande pouvait transpercer notre bulle de protection, transpercer notre être, pour pouvoir déjà créer une empreinte forte en nous. La suggestion, c'est quelque chose qui respecte notre bulle et qui est proposé à l'orée de notre bulle. et qui va faire en sorte qu'on va sentir une distance suffisante pour sentir c'est quoi notre bonne réponse. On va pas être contraint dans nos émotions de répondre à quelque chose en lien avec la demande de l'autre personne ou en lien avec l'énergie de la demande qu'elle va mettre dans sa question par exemple. Et ça change tout parce que c'est extrêmement matiné de respect quand on fait ça. Je ne sais pas si vous faites souvent la réflexion, moi en tout cas c'est constant dans ma tête, mais hey, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un besoin de liberté plus haut que la moyenne, mais je trouve que tout est injonction. Nos vies sont toujours gérées par des choses qui n'ont jamais été décidées par nous, notre horaire, nos horaires pour manger par exemple, ou notre horaire de travail, ben peut-être un peu moins pour les travailleurs autonomes, mais la phase, on est quand même tributaire de notre contexte. Et si on a des enfants, on est en lien aussi avec l'horaire de l'école, les injonctions aussi plus de la société sur qu'est-ce qu'on devrait faire à tel âge, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est pas bon, etc. Donc vous voyez de quoi je parle. Isabelle Miron parlerait de la grande fiction qui nous impose des choses et qui est. En tout cas, qui fait en sorte qu'on n'est pas dans l'expression de qui on est, parce que ben, il y a comme un agenda de cette grande fiction-là, de la société qui est gouvernée par des instances qui ne veulent pas forcément notre bien et qui va faire en sorte que ben, les repères qu'on nous présente comme bons pour nous, c'est des repères qui finalement nous détruisent intérieurement ou détruisent finalement qui on est vraiment. Je referme la parenthèse parce que je ne veux pas du tout aller vers là, mais ce que je veux vous faire sentir, c'est que on est tout le temps en train d'être imposé, les demandes que tout le monde nous fait, les courriels qui arrivent, c'est à tous les niveaux. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à vivre une vie de qui vous seriez s'il n'y avait pas toutes ces contraintes-là. Moi, ça m'est arrivé de manière un petit peu épisodique. Bon, c'est génial, ça arrive quand on fait des retraites de méditation longue de plusieurs jours, où là, on sent qu'il y a comme un phénomène de reconversion, de recovery, d'autoréparation, où on vient comme sentir qu'il y a. On reprend nos droits comme humains. Sentir que c'est pas le reste du monde qui met une pression, c'est nous-mêmes qui reprenons nos droits intérieurement comme humains. Moi, je l'ai vécu récemment. Patrick et Sophia, donc Patrick, mon mari, Sophia, ma fille, sont partis faire un voyage de ski dans l'Ouest canadien. J'avais eu comme un 10 jours, 12 jours de totale liberté. Dans ces 12 jours-là, ben, j'avais des moments aussi où je travaillais moins. Et comme j'ai comme pu découvrir c'était quoi mon rythme, mais mon rythme, il est totalement différent de ce que nous impose la société. Je découvrais que j'avais faim mais 2 fois par jour, le matin à 10h, le soir vers 16-17h, c'est là où j'avais faim. Puis j'étais fatiguée à 19h, donc j'allais me coucher souvent à 19h, mais en me couchant à 19h, je me réveillais à 11h, mais c'était parfait. De 11h à minuit et demi, ben, je me réveillais, puis j'allais écouter de la musique, je dansais, je lisais mon livre, je remangeais quand j'avais faim, puis après je me réveillais naturellement à 5h le matin pour recontinuer ma journée. Et dans cette journée, ben, c'était ponctué de juste qu'est-ce que j'avais envie. Et ça ressemblait pas au modèle de journée que j'ai tout au long de l'année quand je vis dans un système avec d'autres humains. Donc, il y a vraiment toute l'idée de venir que si on veut un peu décharger de cette injonction des demandes et de la pression qui existe un peu partout, il y a vraiment l'idée de venir déjà à notre toute petite échelle suggérer au lieu de demander. Et la question aussi qui se fait en arrière-plan de ce que je vous dis, c'est la question de retrouver notre rythme. Parce que notre rythme, il est, et ça Frédéric Pignon en parle aussi, il dit adaptez-vous au rythme du cheval. Et c'est toujours un rythme qui est plus lent. Alors que ce qu'on apprend dans l'équitation traditionnelle, c'est toi le leader, puis c'est toi qui imposes ton rythme au cheval. J'ai toujours été vraiment pas bien avec ça. Mais ce qu'on impose au cheval, on s'impose à soi-même. C'est comme une seconde nature. On pense qu'on est le leader de nous-mêmes en nous forçant à faire des choses. Alors que la vraie révolution, ce serait apprendre à nous écouter dans notre propre rythme, à savoir, hey, mais qui je suis quand je ne m'impose rien? Parce que ce que vous vous imposez ou ce qu'on s'impose chacun, ça part de notre tête et notre tête, finalement, elle a collecté des données. En tout cas, notre cerveau plus rationnel, il a collecter des données sur ce qui présuppose étant bien pour nous, mais collecter des données en fonction de choses qui ont été passées, de bonnes pratiques, d'études, de choses qui ont marché pour nous, mais qui n'ont pas forcément lieu d'être avec qu'est-ce qu'on a besoin dans l'instant présent. Donc, il y a comme une réflexion sur ce rythme-là. Et on s'impose beaucoup de choses, au lieu de se suggérer des choses, on se les impose, on s'en demande beaucoup. Et ça, c'est quand même une grosse réflexion à faire. Même dans mon monde, le monde de la méditation, je suis toujours comme en partisane, je vais le dire de manière positive, de créer des méditations qui ne viennent pas chiffonner l'espace intérieur de l'autre en lui imposant des choses, en lui imposant des images, en lui imposant une compréhension de la vie. Non, non, la vraie méditation, c'est celle qui permet de créer une expérience, un terreau, pour que l'autre personne, la personne qui médite ou qu'on fait méditer, puisse venir aller grappiller à l'intérieur d'elle-même qui elle est vraiment et relaisser le mouvement intérieur de la vie, reprendre ses droits. Donc ne pas imposer un souffle, par exemple, mais observer le souffle tel qu'il est. Ne pas dire qu'il faut ressentir telle émotion, mais venir observer l'émotion telle qu'elle est dans le présent, même si elle ne correspond pas à ce qu'on avait prévu qu'elle soit. Et donc j'espère que vous le sentez, ces éléments-là dont je vous parle, parce que c'est vraiment un mouvement qui est fondamental. Si je devais faire un petit lien aussi avec une autre chose que je vois, que j'ai vue chez Frédéric Pignon, c'est la confiance dans l'invisible. Au final, une grosse partie finalement de ce qu'on va appeler réussite dans la partie extérieure visible se conçoit et se vit d'abord dans l'invisible. Donc une bonne rencontre avec quelqu'un, une chimie qu'on peut avoir, on va être nous-mêmes responsable finalement de cette rencontre-là à travers peut-être le silence qu'on va faire à l'intérieur, l'intention qu'on va mettre. Et c'est très concret, c'est très physique une intention parce que c'est ça qui va donner l'impulsion au reste, à nos pensées, à nos paroles, à nos actions. Et donc dans tout ça, il y a beaucoup de choses finalement qu'on ne prend pas le temps de faire dans l'invisible, dans l'inaction, parce qu'on est tout le temps dans l'action. Et une des propositions de Frédéric Pignon, c'était de découvrir son degré de confort à soi-même dans l'inaction. Bon, il parlait du cheval, mais là je vous le ramène à vous-même. Son degré de confort dans l'inaction, dans le faire rien, le far niente, comme on dit en italien. Donc, en découvrant cela, ben, ça nous donne un peu une jauge sur finalement l'efficacité qu'on peut avoir dans le visible. Parce que plus on va être capable de faire rien dans l'invisible et d'être confortable là-dedans, plus il va y avoir un silence intérieur, plus on va pouvoir finalement avoir une efficacité dans les gestes concrets qu'on va poser à l'extérieur, parce qu'il y aura eu une préparation à l'intérieur. Et quand je dis cela, je vais vous dire le contre-exemple pour que vous compreniez mieux, c'est que quand on ne fait pas cela, on s'agite tout le temps. On fait plein de choses, on s'agite, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est que finalement, on est tout le temps dans l'action pour éviter d'aller dans un espace confortable, inconfortable, qui est notre espace intérieur. Mais là, c'est comme une restructuration totale de la façon dont on est à la vie, en ayant conscience qu'une grosse partie de tout ce qu'on va faire, donc c'est à tous les niveaux, c'est écrire un courriel, c'est rencontrer une personne, c'est aller prendre une marche, faire son yoga, de sentir d'abord qui on est avant de faire ça, de sentir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, de sentir le mouvement ou l'intuition qu'il peut y avoir en lien avec cette discussion, avec le travail qu'on va faire, pour après faire les bonnes choses. Et ça se passe dans l'invisible. Et si on n'est pas confortable dans cet invisible parce qu'on est tout le temps en train à des proies, à des luttes intérieures, de la souffrance, etc., qu'on n'a jamais agressé parce que... adressé, agré... Ah, pourquoi je dis ça? Qu'on n'a jamais adressé, et c'est intéressant, qu'on n'a jamais adressé parce qu'on ne va pas dans cet espace qui nous agresse, justement, ben, c'est comme si on vivait juste à l'extérieur. Donc, ma proposition, c'est de, et ben, la proposition de Frédéric par là même, c'est de venir apprivoiser finalement notre silence intérieur. Le faire courageusement, parce qu'évidemment, il y a de la souffrance, mais on comprend que la souffrance, elle se transcende avec notre présence, elle se transcende avec notre capacité à la ressentir. Et une fois qu'on est parti de ce point de départ-là, mais de plus en plus se crée un silence intérieur qui va nous bénéficier dans l'action. Et c'est ça que quand Frédéric parle de rechercher tout d'abord son confort, c'est d'abord rechercher son confort avec soi-même. Et pour certaines personnes, ça va faire l'objet d'un travail, ça. Parce que le confort avec soi-même n'existe pas, parce qu'il n'y a jamais eu le mouvement où certaines personnes sont revenues vers l'intérieur pour pouvoir l'apprivoiser, ce monde intérieur. Et quand ils essaient d'y aller pour l'apprivoiser, ben ils découvrent que c'est juste un monde de tumulte, un monde difficile avec beaucoup de violence intérieure, d'émotions difficiles. Mais ça se transcende avec la présence, une certaine présence à soi. Et c'est comme un investissement pour l'avenir. Quand en étant capable de faire ça, ben, on se crée ou on se tricote de plus en plus un espace intérieur sécuritaire et réconfortant dans lequel on va pouvoir se glisser, retrouver sa zone de confort pour mieux ultimement après en sortir de cette zone de confort. Parce que c'est quand on est aligné, présent à soi, que dans ce confort-là, qu'on va être capable, ultimement, après, de pouvoir aller plus loin, de sortir de sa zone de confort, comme l'enfant, finalement, qui a tellement un lien sécure avec ses parents qu'il est capable d'explorer. L'enfant qui n'a pas le lien sécure avec ses parents, il va rester dans les jupes de sa mère. Donc, dans tout ça, nous, dans un esprit peut-être de reparenting our inner child, excusez mon anglais, il y a toute l'idée de venir créer en soi-même cet espace de sécurité, parce qu'on ne peut pas l'avoir à l'extérieur, cet espace de sécurité. Il y en a qui me disent, ben, mon espace de sécurité, c'est mon chalet, c'est l'arbre dans mon jardin ou autre. Mais oui, mais si tu es à 5 000 km de ton arbre, t'as pas d'espace de sécurité, alors que si c'est à l'intérieur de toi, ben, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus portable. Et en même temps, c'est sûr qu'il faut se le construire, cet espace en soi. Donc, pour se le construire, c'est transcender finalement, qu'est-ce qu'il y a à transcender à l'intérieur de soi qu'on appelle souffrance, qu'on appelle émotion. Donc, c'est quand même assez profond. Je regarde mes notes, je pense que j'ai tout dit de qu'est-ce que je voulais vous dire. Si je résume les notes que je vous ai, les comme statements que je vous ai dit en lien avec tout ce que m'a inspiré Frédéric, en même temps, là je vous parle juste de la partie humaine, parce qu'après il y a toute la question de la partie cheval. Donc si vous montez à cheval, je vais peut-être faire un autre podcast, mais pas sur le podcast de la Didbi, vous m'écrirez à part pour que je vous l'envoie, mais pour que tout ce qui nous a appris aussi côté cheval, côté relation au cheval, psychologie au cheval, technique, ben ça, je vais en faire un autre podcast. Donc, si je résume ce que je vous ai donné aujourd'hui en lien avec les leçons que j'ai pu comprendre, capter, sentir de cet être incroyable, il faut dire quand même que la même semaine, je rencontre Bernard Werber le mardi, le jeudi, je vois Frédéric Pignon. Mais Bernard Werber, c'était super comme super de le côtoyer, le voir, mais ça avait tellement rien à voir avec Frédéric Pignon. Et je ne veux pas les comparer, oh mon Dieu, loin de là. Mais c'est juste que la présence de Frédéric Pignon avait quelque chose de guérissant en soi. Donc c'est pour ça que je me permets d'en faire un podcast. Mais bref, je suis une fan finie de Bernard Werber. Je le suis partout. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle de présence. Donc si je résume mes leçons, je vais arrêter d'être maladroite avec ça. Première leçon, c'est la présence, cultiver une présence qui à la fois fait en sorte que nous, on est bien avec nous-mêmes, mais à la fois que l'autre grandit grâce à la présence qu'on peut lui offrir. Parce que l'expérience qu'on a avec Frédéric Pignon, je la connaissais en théorie, mais je l'ai vécue en pratique, c'est de dire qu'il y a une expérience de présence de quelqu'un de très présent nous permet de grandir en conscience. La deuxième chose, c'est l'importance de la douceur, en faire comme un prérequis dans toute sa vie. Et cette douceur, elle se vit à tous les niveaux. Elle se vit au niveau des pensées, des paroles, de l'action. Elle se vit au niveau de la façon dont on se traite et on traite les autres. Donc, pas dans le côté plus yang de la demande, mais le côté plus yin de la suggestion à soi et aux autres. Il y a la question de respecter son propre rythme. Il y a la question aussi de voir que une bonne partie de tout ce qu'on fait doit être préparée dans l'invisible, donc dans qui on est. Mais pour pouvoir être capable de faire ça, il faut être confortable avec soi-même. Bien, moi j'appelle ça le retour d'exil. C'est l'objet d'ailleurs de ma maîtrise en ce moment à l'UQAM, en sciences des religions. Le retour d'exil de sa conscience pour bien la camper dans l'espace intérieur de sa maison, son foyer intérieur, pour pouvoir après être en sécurité à l'intérieur de soi et pouvoir se permettre de sortir de sa zone de confort. Je pense que ça faisait à peu près le tour. Voyez à quel point c'est riche. Je parle vite. J'espère que mes idées sont claires. Je n'ai pas forcément donné beaucoup d'exemples, mais si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me demander. Moi, c'est sûr que ça m'a transformée. Ça a déjà transformé les cours que je donne. Je donne un cours en ce moment sur méditation et ressenti. Ils ont entendu parler de Frédéric Pignon. Pareil dans mon cours de professeur de méditation. D'ailleurs, par rapport à ce cours-là, il se redonne en septembre. Il reste, je pense, 12 places pour septembre. Donc, écrivez-moi s'il vous titille. Ça peut être juste un échange, évidemment, sans pression. Ça pourrait être juste une façon de sentir si nos énergies matchent. Et voilà, si vous êtes intéressé par le cours, bien évidemment. Donc, voilà. Alors, je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ce que Frédéric m'a offert. Et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de retours pour qu'on puisse continuer cet échange-là. Merci beaucoup.